Shalom. Très heureux d'être ici avec vous. Très content d'être ici pour un temps très court et de voir ma cousine et mes petites cousines et mon cousin. Voilà, c'est la réunion familiale. En fait, je suis venu ici simplement pour quelques jours. La parole de Dieu dit d'honorer son père et sa mère. Et donc, il y avait un événement familial du côté de mon père. Donc j'ai été honoré, j'avais très très peu de jours parce qu'on est on est dans une saison très très occupée en Israël, mais j'ai dit bon, il faut quand même que je vienne, et donc je suis venu pour 3-4 jours comme ça. Donc quand mes parents sont séparés, bon, c'est une fois chez mon père, une fois chez ma mère, et puis voilà, une fois chez mes cousins. Voilà, je suis ici là, chez les cousins, et puis ce qui me fait très chaud au cœur, c'est que mes cousins sont dans le Seigneur alors que mes parents ne le sont pas encore, et je vais vous demander de prier pour le salut de mes parents qui ont déjà plus de 80 ans. Et donc une fois par an, je me suis promis d'aller les voir, de les visiter. Voilà, donc je suis pour un événement familial, mais c'est toujours bien de venir dans la maison du Seigneur pour se ressourcer, pour trouver des bons bergers, des bons pasteurs qui ont le cœur de prêcher la grâce de Dieu, et puis de voir les frères coréens ici, parce que moi j'aime beaucoup la Corée. J'étais plusieurs fois en Corée et on a énormément à apprendre d'eux, voilà. Surtout à 5h du matin dans les églises pleines. Voilà. Je vous donne la bénédiction de notre assemblée qui s'appelle l'assemblée Mahayan de la Source. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont été nous voir là il n'y a pas longtemps. Notre assemblée s'appelait l'assemblée de la Source et nous sommes juste au pied de la Samarie. Alors voilà, donc on se trouve ici maintenant entre le jour de l'Ascension et le jour de la Pentecôte, qui veut dire 50, le jour de 50 ans après la Pâque, où la promesse du Saint-Esprit a été déversée. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, et au chapitre 1, où il est dit, au verset 3, après que Yeshua, Jésus, ait souffert, il leur est apparu vivant, il parle aux disciples, en leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel ? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Yeshua, Jésus, qui a été enlevé au ciel parmi vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Voilà, c'est tout un programme, c'est tout un programme. Notre Seigneur va revenir. Il va revenir au même endroit là où il est monté. Il est monté du mont des Oliviers, il reviendra sur le mont des Oliviers. Le Seigneur a besoin, eh bien, de revenir. Il a besoin de revenir, pourquoi ? Eh bien, pour accomplir les choses qui ne sont pas encore accomplies. Nous savons que sur la croix, notre Seigneur, il est mort pour nos péchés. Où ça ? À Jérusalem. Et le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est pourquoi Jérusalem ? Pourquoi cette ville de Jérusalem ? Cette ville de Jérusalem qui est, la Bible dit, une pierre d'achoppement pour les nations. Pour ceux qui ne croient pas en Yeshua, c'est une pierre d'achoppement. Nous sommes ici en constatant les médias tous les jours ou dans les informations. Vous allez avoir le droit à la météo, au rugby, aux élections et peut-être au Moyen-Orient. Pourquoi le Moyen-Orient ? Parce que à tout petit pays, hein, deux départements, le pays d'Israël, c'est un enjeu spirituel. Et souvent, moi, je dis, on a droit à Israël aux informations parce que, eh bien, les chrétiens n'ouvrent pas suffisamment leur Bible pour comprendre l'enjeu spirituel qu'il y a par rapport à Israël. Jérusalem n'est pas une ville comme les autres. Jérusalem est une ville très importante. C'est la ville, en fait, la plus importante du monde. C'est là où tous les événements les plus importants se sont passés. La mort de notre Seigneur, la résurrection de notre Seigneur et le retour de notre Seigneur. Alors pourquoi Jérusalem ? Je voudrais vous inviter simplement à revenir un peu dans l'histoire. On va aller aux origines. Le livre des origines, c'est le livre de la Genèse. Je suis convaincu que le livre de la Genèse est un livre très important pour notre génération. C'est un livre très important pour notre génération par rapport à notre regard aux autres religions, aux autres théologies qui sont en train d'influencer de plus en plus ce monde. Nous avons besoin de savoir que le livre de la Genèse fait partie de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes convaincu que la parole de Dieu ne commence pas à Matthieu chapitre 2, mais qu'il commence à la Genèse au chapitre 1? Et si vous voulez connaître le plan de Dieu, eh bien, il faut regarder à la Genèse chapitre 1, verset 1. Parce que tout est écrit dans ce verset, qui est un verset que nous connaissons, et c'est le plan de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ensuite, il y a la création, hein, en six jours de tout ce que nous voyons, de toute la création des cieux et de la terre. Très important de savoir que Dieu, notre foi, est la foi la plus ancienne du monde. Plus ancienne que le bouddhisme, plus ancienne que l'hindouisme, plus ancienne que l'islam. Notre foi est une foi la plus ancienne du monde parce que c'est la foi dans le Dieu de la création qui était au commencement avant qu'il n'y avait rien. Voilà. Donc notre foi étant un Dieu qui a, avant d'avoir créé ce que nous voyons, eh bien il était d'éternité en éternité. C'est notre foi. Notre foi est la plus ancienne. Alors on va faire un peu d'apologétique, comme on dit. On va passer des munitions pour essayer d'expliquer un peu à d'autres personnes qui ne sont pas croyantes comme nous comment notre foi est la foi la plus ancienne. Et le plan de Dieu, eh bien, il a créé, regardez bien, il a créé le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'a pas seulement créé le ciel, il n'a pas seulement créé la terre. Vous savez, il y a des gens qui sont très terre à terre et il y a des gens qui sont très ciel à ciel. Voilà. Dieu, il a créé le ciel et la terre. En fait, Dieu veut réconcilier le ciel et la terre parce que ça fait partie de sa création. Et c'est le plan de Dieu, en fait. Comment faire descendre le ciel sur terre et comment amener la terre dans le ciel. Voilà. Et quand on a compris que Dieu n'est pas seulement un Dieu de terre ou un Dieu de ciel, mais qu'il est un Dieu de terre et de ciel, voilà, il nous a créé avec un esprit, une âme, mais aussi avec un corps. Et donc, cette réconciliation dans sa création, dans sa créature, nous amène à comprendre le plan de Dieu, en fait, pour l'histoire. Et quand on voit la création de l'homme, on va venir au chapitre 2. Moi, j'ai seulement 40 minutes pour vous expliquer de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, on va aller très vite. On va rouler. Alors, Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu planta. On est à la Genèse au chapitre 2, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Et parmi eux, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Où se trouvait ce jardin d'Éden ? On ne le sait pas exactement, mais il y a une petite explication ici au verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier était Pichon, celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium, la pierre d'onyx. Le second fleuve, c'est le Guion, et celui qui entoure tout le pays de Kouch, l'Éthiopie. Le nom du troisième, c'est le Hidekel ou le Tigre. Et c'est celui qui coule à l'Orient, à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate, le Prat. Donc, on savait qu'il y avait un fleuve qui se séparait en quatre bras, et ces quatre bras entouraient, en fait, le jardin d'Éden. Voilà. Alors, c'est très, nous connaissons nous connaissons où se trouve ce fleuve de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est la division en fait entre la Syrie et l'Irak, hein, ce qui se trouve à l'est du pays d'Israël. Nous savons aussi ce que trouve le Tigre. Le Tigre, c'est juste un tout petit peu à l'est, hein, qui entoure en fait toute la Mésopotamie. Et on a ces deux fleuves, le Guion et le Pichon. Donc, selon les géologues, archéologues, historiens, etc., donc le Pichon et le Guion étaient en fait le Nil blanc et le Nil bleu. Alors que, à l'époque où les continents n'étaient pas encore séparés, hein, parce que les continents n'étaient pas encore séparés, il y avait une masse de terre avec la mer tout autour. Et donc, imaginez-vous que l'Arabie Saoudite était collée à l'Iran, a été collé de l'autre côté à l'Égypte. Hein, c'est dommage, on n'a pas une petite carte pour vous montrer. Mais donc, c'est le Nil blanc et le Nil bleu, c'était le sud. Et aussi, il y avait un des bras du Nil qui, avec justement le déluge qui est venu, en fait, c'était ce bras coulé le long de l'Arabie Saoudite. Et quand vous allez en Arabie Saoudite, au nord de l'Arabie Saoudite, il y a un grand rift, une vallée, où il y avait en fait une des branches de ce fleuve, où il y avait ce Guion. Et donc, selon la carte en fait qui nous montre de ces quatre fleuves, eh bien, nous savons que le jardin d'Éden se trouvait au Moyen-Orient. Je suis désolé de vous dire, il ne se trouvait pas en France. Il se trouvait au Moyen-Orient. Et où se trouvait-il exactement au Moyen-Orient? On ne le sait pas. Mais ce que je veux vous expliquer aussi, c'est une théorie, parce que ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu, c'est que selon la tradition juive, eh bien, Adam aurait été créé sur le mont Morija. Il aurait été créé sur le mont Morija. Le mont Morija, qui est une des collines de Jérusalem, et ce qu'on appelle en hébreu Even Ashtia, c'est-à-dire la pierre de commencement. C'est-à-dire que de Jérusalem, la pierre de commencement serait le début de la création de l'homme. Et donc, sur ce mont Morija, Adam aurait été créé, il y aurait l'arbre de la vie et l'arbre du bien et du mal. Alors, vous mettez ça un petit peu dans votre tête, on va voir selon la parole de Dieu si on n'a pas des petits signes qui pourraient nous montrer que peut-être c'est vrai, hein, parce que il faut tout voir à la lumière des Écritures. Alors, ce qu'on voit, eh bien, c'est au chapitre 2, au 3, verset 24, on connaît l'histoire du péché, un seul commandement, et l'homme n'était même pas capable d'obéir à un seul commandement. Hein. Je dis bien l'homme, je n'ai pas dit la femme. Parce que la responsabilité était devant l'homme. Parce que si, une fois que Ève a pris de l'arbre, elle l'a offert à son mari. Et son mari, on pourrait dire non. On pourrait dire non. Bon, on n'est pas une cote près. Hein. La responsabilité est devant l'homme. Donc c'est très important. Hein, mais c'est le fruit du péché, ça a été la peur, hein, Adam s'est caché, et l'accusation, oui, la femme que tu m'as donnée. C'est bien, on a des effets du jardin d'Éden, là, c'est bien. On a... Son et lumière, hein, super, d'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'on voit? Le fruit du péché, en fait, c'est que, eh bien, l'homme est chassé de ce jardin d'Éden. Hein, on le voit au chapitre 3, à la fin, où il est dit, l'Éternel Dieu, verset 23, chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris, et ainsi, Adam, il le mit à l'Orient, à l'est du jardin d'Éden. Et les chérubins, les krouvim, c'est des anges énormes, hein, qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc Adam se trouve maintenant déporté à l'est de Éden. C'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on avait à l'est de l'Éden? Vous vous souvenez? Les deux rivières, on avait le Tigre et l'Euphrate. Ok, le Tigre et l'Euphrate. Alors on est au chapitre 3. Tournons-nous maintenant vers le chapitre 11, la fin du chapitre 11, où on voit le père de Abraham, qui s'appelait Terach. C'est le chapitre 11, verset 31, prit Abraham, son fils, Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, fils d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Alors, c'est où Ur en Chaldée? Ur en Chaldée se trouve juste au pied du Tigre et de l'Euphrate. C'est quand le Tigre et l'Euphrate se réunissent, c'est à peu près le Koweït, c'est le sud de l'Irak, Bassora. Hein, d'accord. Donc, il se trouve où? Il se trouve juste à l'est de Éden. Il se trouve juste à l'est de Éden, des deux rivières, du Tigre et de l'Euphrate qui sont. Et il se trouve là, cette personne, Terach, qui est le père d'Abraham. Et, en fait, ils vont aller au pays de Canaan. Et le pays de Canaan, eh bien, c'était ce pays des traders, c'est le pays où les gens, c'est une route qui rassemble en fait, qui réunit trois continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Le pays de Canaan, qui deviendra plus tard le pays d'Israël, c'est une petite bande de terre entre trois continents, c'était une route où les gens faisaient, eh bien, un passage, un marché économique, où il ramenait les épices, où il ramenait l'or, etc. Et donc ici, cette personne Terach qui va mourir et son fils va rester, Abraham, avec son neveu Lot, il est dit ici qu'ils sont en Ur, en Chaldée, et Dieu va parler à Abraham, et c'est le commencement de cet appel de venir en fait de l'est de Éden pour revenir là, dans ce pays de Canaan, pour faire quelque chose et accomplir quelque chose que en fait son descendant, le plus connu va en fait accomplir, c'est Yeshua, Jésus de Nazareth. Et ici, au chapitre 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Très important, il n'y avait pas de GPS à l'époque, il n'y avait pas de carte, il n'y avait même pas un guide dans le pays que je te montrerai. Et donc, Abraham, il est le père de notre foi, il sort de sa zone de confort et il va aller marcher, il va suivre le Seigneur qui va le diriger dans ce pays qu'il n'a jamais vu. Et il dit, je ferai de toi une grande nation, Goy Gadol, et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Alors je crois que c'est très important de comprendre que ce verset-là est répété trois fois dans la parole de Dieu. Abraham, Jacob, et à travers un prophète qui était payé pour maudire Israël, Balaam. Et il a trois fois ce verset est indiqué, ceux qui vont maudire Abraham et les enfants d'Abraham seront maudits, et ceux qui béniront Abraham et les enfants d'Abraham seront bénis. Alors les enfants d'Abraham c'est Isaac, hein, Jacob qui deviendra Israël, qui aura son nom transformé Israël. Israël c'est un nom donné par le Seigneur qui veut dire celui qui a combattu avec Dieu, qui a vaincu avec Dieu, hein, Jacob. Le petit-fils d'Abraham qui est devenu Israël. Israël est le troisième mot le plus employé dans la parole de Dieu, dans la Bible. Si vous retirez Israël de la Bible, vous avez un petit fascicule. Hein? Alors, ici, on voit cette personne Abraham qui devient en fait une bénédiction pour toutes les nations, en fait, et il est dit ici, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est-à-dire toutes les familles de la terre, nos familles, mais aussi les familles du monde entier ont été bénies à travers Abraham. Abraham et ses descendants, et c'est très intéressant pourquoi le Nouveau Testament commence justement avec une généalogie. Hein? La généalogie de Jésus commence eh bien, par qu'il est descendant d'Abraham. Dieu a une promesse à travers un homme qu'il a choisi. Vous savez, comme il a choisi Noé, il a choisi Abraham pour être, eh bien, amener cette postérité qui va apporter la bénédiction sur toutes les familles de la terre. Et donc, Abraham, il a servi le Seigneur, il est le père de notre foi, et on retrouve Abraham ici où il arrive. après un petit temps en Égypte, il s'installe sur cette terre de Canaan. Et ce qui nous interpelle en plus, c'est la première rencontre, la première fois où il est parlé de Jérusalem. C'est dans le chapitre 14 où il y a une guerre qui s'est passée entre certains rois de certaines villes cananéennes. Et Abraham, il a perdu son neveu Lot qui a été enlevé. Alors il va le rechercher avec ses serviteurs. Et ensuite, eh bien, il y a la victoire. Et au chapitre 14, verset 18, il y a cette rencontre avec ce roi Melchizedek, qui veut dire roi de justice. Alors ce roi de justice, Melchizedek, est roi de Salem. Et Salem, en fait, c'est le mot pour Jérusalem, qui veut dire shalom. Alors le mot Jérusalem, qu'est-ce que c'est que le mot de Jérusalem ? Jérusalem, c'est la ville de la paix. Et en hébreu, Yerushalayim parle, quand il y a haïm à la fin, hein, point de vue grammatical, parle de deux. C'est-à-dire, c'est une dualité. En fait, il y a deux Jérusalem, il y a deux Yerushalayim. Et c'est très intéressant quand vous regardez bien le drapeau d'Israël. Je vais vous montrer le drapeau d'Israël. C'est un talit, un châle de prière, où il y a une croix. C'est une croix à six branches. Et en fait, cette croix est consistée de deux triangles. Quand vous regardez bien, ce qu'on appelle une Magen David, c'est-à-dire un bouclier de David, selon les traditions, ce serait ce signe qui serait sur les boucliers de David et de Salomon. Et c'est consisté de deux triangles. Alors regardez bien, il y a un triangle qui est avec la base sur le bas et qui monte vers le haut. Et il y a un autre triangle qui a la base vers le haut, qui descend vers le bas. Et c'est la réconciliation entre le ciel et la terre. C'est la réconciliation entre Dieu et l'homme. Nous sommes un triangle, nous sommes créés en trois dimensions. La création de Dieu est toujours en trois dimensions. Quand vous regardez partout, c'est le signe de Dieu, la trois dimensions, hein. Et il y a donc l'homme qui est corps, âme et esprit, et qui rencontre son Dieu, qui est aussi en trois dimensions, le Père, la parole, qui est le Fils, hein, et l'Esprit. Et ici, on voit le plan de Dieu. Si vous voulez montrer en une image le plan de Dieu, eh bien, c'est le drapeau israélien. Voilà. Et c'est pour ça que ce drapeau ici, cette Magen David, ces deux triangles qui se rencontrent où? Eh bien, à Yerushalayim. Il y a la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. La parole de Dieu nous dit « Priez pour la paix de Jérusalem ». On n'a pas besoin de prier pour la paix de Jérusalem d'en haut parce qu'elle est en paix déjà. Hein? On n'a pas besoin de prier pour la Jérusalem céleste, elle est déjà en paix. Priez pour la Jérusalem d'en bas qui a besoin de rencontrer cette Jérusalem d'en haut. Il va y avoir une rencontre quand le Seigneur va revenir, eh bien il va avoir cette rencontre entre la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Et c'est pour ça que ici il est parlé déjà au chapitre 14 de Salem, ce roi de Salem qui s'appelle Melchizedek, le roi de justice. Et regardez que c'est très important. Il fait apporter à Abraham quoi? Du pain et du vin. On a pris le pain et le vin. Il lui fait apporter le pain et le vin. Ce sont les symboles, en fait, le pain, hein, et le vin. Ce sont les mêmes symboles qu'il y a quand Dieu se révèle à Moïse et aux 70 anciens sur le mont Sinaï, où ils ont mangé et bu ensemble et ils ont vu l'Éternel. Et donc il y a ce thème du pain et du vin qui est toujours dans l'alliance avec l'Éternel, qui ne commence pas au Nouveau Testament, mais qui est aussi dans cette alliance de sang, qui est symbolisée par le sang, parce que il n'y a pas de provision pour les péchés seulement à travers le sang qui est versé. Et ici on voit cette relation entre Abraham et... Parce que Melchizedek est plus haut qu'Abraham. Il lui apporte le pain et le vin, mais il bénit Abraham et il dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut ». Il le bénit du nom du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Vous voyez encore cette réconciliation entre le ciel et la terre, maître du ciel et de la terre. Dieu se révèle comme le maître du ciel et de la terre. et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout, c'est-à-dire tout ce qu'il avait, il lui a donné. Et ça a pris du temps parce qu'il avait énormément de choses à faire. La dîme, ça vient du mot dix, maaser, en hébreu. Et il, en fait, s'est soumis à l'autorité de ce Melchizedek. Alors, dans la lettre des Hébreux au Nouveau Testament, il est dit que justement ce Melchizedek est un type qui annonce le Messie, Jésus, Yeshua lui-même, avant qu'il devienne chair. Hein, il était ce roi Melchizedek qui n'avait ni commencement ni fin, dont on ne connaît pas. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est justement de parler de Jérusalem. Alors, il est à Jérusalem, il se trouve à Jérusalem, ce roi Melchizedek. Ensuite, eh bien, nous sommes déjà au chapitre 22, et dans ce chapitre 22, nous lisons quelque chose d'extraordinaire, qui est, eh bien, le sacrifice de Isaac. Abraham était béni en tout. Mais il lui manquait une postérité. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il lui fallait une postérité, et cette postérité est venue surnaturellement, eh bien, à travers sa femme, Sarah, qui était très âgée, qui ne pouvait plus enfanter, et le Seigneur a permis ce miracle où Isaac, qui veut dire « il a ri », « elle a ri », « elle a ri hein, », du mot « rire », « Yitzhak », parce que, eh bien, Sarah avait du mal quand elle a entendu qu'elle allait enfanter un enfant. Elle a dit c'est pas possible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et cet enfant, Isaac, qui est un enfant qui est venu surnaturellement, eh bien, à un certain moment, Abraham va lui demander de faire quelque chose. Alors, au chapitre 22, et Dieu mit Abraham à l'épreuve et il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice. Le mot holocauste, c'est-à-dire, tu vas le brûler complètement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le mot holocauste, c'est brûler complètement. C'est pour ça que nous, on a les termes, la Shoah, par exemple, en anglais, c'est holocauste. Hein, c'est ce terme-là de brûler et qu'il ne reste plus rien. Et donc, tu vas l'offrir là, au pays de Morija. Tiens, Morija, ça nous dit quelque chose, ça. Alors, où se trouve Abraham à cette époque-là? Il se trouve à Beersheba. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été à Beersheba, là? Vous avez été à Beersheba? Voilà, vous connaissez bien Beersheba? Bon, de Beersheba jusqu'à Mont-Morija, Jérusalem, c'est très très loin. Surtout quand on n'a pas de car ni de voiture. Et donc, ils s'en vont de bon matin. Ils partent avec un âne, deux serviteurs, on est au verset 3. Et il fendit du bois pour l'Holocauste et partit au lieu que Dieu lui avait dit. Et le troisième jour, Abraham, levant les yeux, verset 4, il vit le lieu de loin. Pourquoi? Parce que Jérusalem se trouve très très haut, plus de 850 mètres d'altitude. Hein, et il voit de haut, de très loin, ça fait déjà 3 jours qu'il marche. Et regardez cette réponse d'Abraham qui nous montre vraiment combien sa foi est grande. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alors Dieu lui dit, tu vas offrir ton fils en sacrifice, tu vas le brûler sur cet autel, sur le mont Morija. Et lui, il dit, on va aller avec mon fils, nous allons adorer le Seigneur et nous allons revenir. C'est quelle sorte de foi, ça? Abraham était convaincu que même s'il tuait son fils, eh bien, Dieu allait le ressusciter, qu'ils allaient revenir ensemble. Ça, c'est la foi d'Abraham. C'est pour ça que Abraham, il est appelé le père de notre foi. Il a mis, c'était son test, c'était la chose la plus chère qu'il avait au monde, et c'est aussi le test que le Seigneur va nous demander à chacun d'entre nous si nous voulons le suivre. Si nous voulons le suivre, jusqu'au bout, il va nous demander d'offrir sur le sacrifice, sur l'autel, la chose la plus chère qu'il nous a donnée. Alors, on va réfléchir peut-être une minute. Quelle est la chose la plus chère qu'il t'a donnée? Quel est le don le plus cher qu'il t'ait donné? Dieu va te demander de le mettre sur l'autel. D'en faire numéro 2, alors que Dieu veut être le numéro 1. Le Seigneur veut toujours être le numéro 1. Et si on peut mettre sur l'autel le don de Dieu, afin de recevoir le Dieu des dons, eh bien, nous allons pouvoir rentrer dans cette intimité avec lui. Parce que c'est ça qu'il nous demande, qu'il soit le numéro 1 dans notre vie. Pas le numéro 2 ni le numéro 50. Il ne veut pas être la roue de secours, mais il veut être le volant de notre voiture. D'accord ? On va arrêter de faire Jésus notre roue de secours. Il y a des gens qui m'appellent toujours, « Oh, j'ai un problème. Mais où est-ce que tu étais quand tu n'avais pas de problème ?» Hein ? Jésus n'est pas la roue de secours. Il est le volant de notre voiture. Amen ? Ok. Alors, ici, on voit qu'Abraham, il prend le bois, il marche, ils sont déjà sur la colline du mont Morija, et qu'est-ce qui se passe ? Le jeune, il n'est pas bête, il dit, « Papa, je vois le bois, je vois l'autel, mais où est le sacrifice ?» Et qu'est-ce qu'Abraham lui dit ici ? Qu'est-ce qu'Abraham lui dit ? Eh bien, au verset 8, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham y éleva un autel, rangea le bois, lia son fils, le mit sur l'autel. Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Et un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et ensuite il vit derrière lui un bélier. Tiens, un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham allait prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Où ça ? Sur le mont Morija. Et Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Yireh, c'est-à-dire Dieu pourvoit. Pourvoit, c'est-à-dire il voit avant. Hein? Dieu pourvoit, c'est la première place où Dieu est à son nom, qui est l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Il pourvoira quoi ? Le sacrifice. Où ? Sur le mont Morija. Très intéressant. Et c'est pour ça l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors, aujourd'hui, très intéressant, qui a écrit la Genèse ? Moïse. Est-ce que Moïse est venu sur le mont Morija ? Est-ce que Moïse est rentré à Jérusalem ? Non. Moïse a vu Jérusalem sur le mont Nebo, qui se trouve en Jordanie. Il a vu. Mais même à l'époque de Moïse, il est déjà dit dans la tradition que c'est la montagne de l'Éternel. C'est pour ça l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y avait dans cette foi que sur cette montagne de l'Éternel, Dieu va pourvoir. Il a pourvu, comme il a pourvu le sacrifice à la place de Isaac, eh bien il va avoir un autre sacrifice qui va être pourvu. Et il faut passer de Abraham. Il y a plein de détails dans toute l'histoire de la parole de Dieu, mais on va passer quelques centaines d'années plus tard, on va retrouver un roi qui est prophète, un roi qui a un cœur après Dieu, c'est le roi David. Et ce roi David, on va le rencontrer dans le 2 Samuel au chapitre 5, où vous connaissez l'histoire du roi David, hein, qui a été qui est persécuté par le roi Saül, son beau-père, et pour en finir, il devient roi lui-même à l'âge de 30 ans. 2 Samuel chapitre 5, à l'âge de 30 ans. Tout commence à 30 ans, c'est ce que je disais au frère Samuel là, parce que un autre Samuel, hein, qui voilà. Parce que notre frère Samuel, lui, il va se faire baptiser à l'âge de 30 ans, c'est bien. Voilà. Et David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 40 ans et il était à Hébron. Pendant 7 ans, il était dans la ville de Hébron. Alors, pour vous expliquer, la ville de Hébron, c'est la route des patriarches. La route des patriarches, c'est la route centrale, quoi. C'était une ville stratégique. C'était le centre d'Israël. C'était là où il fallait être. Il était très bien à Hébron. Et tout d'un coup, il a une idée. Il veut aller dans le petit village des Jébusites, à 850 mètres d'altitude, dans un petit patelin. Et même si vous venez maintenant en Israël, vous allez voir, on est en train d'agrandir la route, parce que c'est une route très très étroite, à seulement deux voies, parce que c'est dans les montagnes. Pour aller sur Jérusalem, c'est toute une histoire, c'est dans les montagnes. Et on voit qu'en fait, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitant le pays. Et il dira à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Et regardez au verset 7 ce qu'il est dit. David, on est au 2 Samuel 5. David s'empara de la forteresse de Sion, la première fois qu'il est parlé de Sion. Première fois de Jérusalem, c'est Genèse 14. Première fois de Sion, c'est ici, dans ce verset. La forteresse de Sion, c'est la cité de David. Forteresse de Sion égale cité de David égale Jérusalem. Alors, c'est quoi des sionistes? Les sionistes, c'est ceux qui veulent rentrer, revenir à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem est une place importante pour eux. Le sionisme, c'est pas un truc péjoratif. Ça n'a jamais été quelque chose de péjoratif dans la parole de Dieu, au contraire. C'était toujours les gens qui avaient la foi, comme Abraham, de revenir de leur pays, de revenir à Sion, c'est-à-dire revenir à Jérusalem. Parce que là-bas, il y avait cette promesse. Et donc, il va sur la forteresse de Sion, et au verset 9, il s'établit dans la forteresse qu'il appela la cité de David, et il fit des constructions, et David devenait de plus en plus grand. Donc, il part de sa capitale sur la route stratégique, la route des patriarches à Hébron, et il va dans ce petit patelin, de cette petite cité où il y avait une forteresse à Sion, la forteresse de Sion, la forteresse des Jébusites, et il s'y installe, il commence à construire, et il fait toute la ville, toute une ville, il commence à construire, mais lui, ça lui suffit pas d'avoir sa maison, il veut créer une maison pour l'Éternel. Et donc c'est son rêve. Le rêve de David sera toujours de faire une maison à l'Éternel ou sur le mont Morija. C'était une personne, un roi, qui avait un cœur après Dieu. Vous souvenez, il avait un cœur après Dieu. Il était en communion avec le Seigneur. C'était un prophète. Et il savait que la chose la plus importante, eh bien, c'était de restaurer l'adoration là où Dieu a pourvu, eh bien, cette adoration. Et il va entendre que l'arche de l'Alliance, vous vous souvenez de l'arche de l'Alliance? L'arche de l'Alliance qui avait été prise par les Philistins avait été ramenée à Kiriath Yearim, qui se trouve à 15 kilomètres de Jérusalem. Et la première chose qu'il fait quand il vient à Jérusalem, il dit, allez, on va aller chercher l'arche de l'Alliance. C'est dans le chapitre d'après, au chapitre 6, verset 12. Et il arrive à Kiriath Yearim, il va rentrer dans cette maison de cette personne qui s'appelle Oved, qui est très bénie. C'est à 15 kilomètres, si vous connaissez Jérusalem, c'est Yad HaShmona, c'est le moshav messianique de Yad HaShmona. Juste à côté, il y a Kiriath Yearim, il y a Notre-Dame de l'Alliance, où il y avait, en fait, selon la tradition, eh bien, cette arche de l'Alliance. Et il va venir. Et mal conseillé, les gens vont lui dire, bon, pour aller plus vite, 15 kilomètres, on va faire un chariot, on va le mettre sur le chariot. Hein? Allez, on va le mettre sur le chariot, et puis en le mettant sur le chariot, il y a un problème. L'arche penche, et une personne de bonne volonté va mettre sa main pour empêcher l'arche de tomber. Hein? Il est de bonne volonté, il va être foudroyé sur place. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, tu ne peux pas transporter l'arche de l'Alliance, il faut le transporter par les Lévites, à bout de bras. Alors, David, il va rentrer, et là, ça parle de ça. Il va être en dépression. Il va, pendant très longtemps, il va plus vouloir toucher cette arche de l'Alliance. Et ensuite, il va revenir, et il va faire, selon la tradition, il va revenir avec les Lévites, et ils vont faire tous les six pas un sacrifice. Donc, ils vont marcher six pas. Ils vont offrir un sacrifice, un animal tué, six pas, un sacrifice, 15 kilomètres. Imaginez-vous le nombre d'animaux qui sont sacrifiés. Mais quand ils rentrent à Jérusalem, c'est la joie. Il a oublié qu'il est roi. Il est en sous-vêtements. Hein, il est en sous-vêtements. Il commence à danser, à chanter. Il est content. C'est son rêve. Son rêve, c'est la maison de l'Éternel. Et il a déjà la chose la plus importante. C'est l'arche de l'Alliance. Alors on pourrait lui dire, les Lévites pourraient lui dire, « Mais David, pourquoi tu ramènes l'arche de l'Alliance à Jérusalem ? Elle ne doit pas être là. Elle doit être à Shiloh. Elle doit être avec le reste du tabernacle. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais quelque chose de nouveau ?» Oui, il a fait quelque chose de nouveau. L'arche de l'Alliance appartenait au tabernacle, mais David a déjà vu que le tabernacle va devenir une maison, un temple. Et il ramène justement cette arche de l'Alliance. Or sa femme, elle n'est pas du tout contente, Michal. Elle n'est pas du tout contente. Elle lui dit, mais comment toi, tu te déshonores en tant que... Mais tu ne vois pas que c'est la joie, Dieu est avec nous. Non, elle n'a pas vu. Et souvent, on regarde plus à l'apparence qu'au cœur. Et ça, c'est un signe pour nous, un message pour nous. David fait construire une tente sur le mont Sion, justement cette forteresse qui était tombée. Il en fait une tente et il met l'arche de l'Alliance en attendant qu'il y aura le reste qui viendra. Et le mont Sion se trouve en fait juste à côté du mont Morija. Si vous allez à Jérusalem, je vous montrerai, si vous venez avec nous à la conférence francophone, je fais un peu de pub, c'est... Hein, conférence francophone du 19 octobre au 27 octobre, pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Vous venez avec nous, vous venez avec Samuel et avec Aurélie. Tu vas venir, hein, Aurélie ? Voilà, avec Aurélie. Et qui est-ce qui vient ? Qui d'autre vient cette année à la conférence ? Il y a encore de la place. Inscrivez-vous. C'est la conférence la moins chère en Israël. Parce que nous, on traite directement avec les hôtels. On ne passe pas par des intermédiaires. On sait directement... Inscrivez-vous, et c'est une conférence de prière, une conférence d'intercession, une conférence où on voit des pierres vivantes. Il y a des pasteurs israéliens, juifs, il y a des pasteurs arabes. On va aller à Jéricho, à Bethléem, à Nazareth, voilà, dans toutes les, sur le mont du Temple. On va faire les excavations, voilà, de tout ce qui a été retrouvé sur le mont du Temple, etc. Bon, la pub est terminée. Hein. Si vous avez plus de questions, ben vous pouvez demander à ceux qui étaient. Qui est-ce qui était ? Levez vos mains, ceux qui étaient déjà à la conférence francophone. Voilà, regardez. Eux, ils y ont été. Posez-leur des questions, ils vous répondront. C'est tous les ans, à la Toussaint, 19 au 27 octobre. Voilà. Alors, David, son rêve, c'est quoi ? Construire la maison de l'Éternel. Mais le Seigneur va lui dire, non, David, tu es un homme de sang. Tu as trop de sang sur tes mains, c'est ton fils qui le construira. Le fils Salomon, qui veut dire Shlomo, sa paix, la paix de Dieu. Shlomo, sa paix. Et c'est Salomon qui construira ce temple à Jérusalem. Et vous vous souvenez la dédication du temple de Jérusalem où, mais David, lui, c'est lui qui a tout organisé. Il avait son ami Hiram, le roi de Tyr, il a fait venir les pierres, les cèdres et tout. Il avait tout préparé pour son fils déjà. Ça leur a pris quand même 7 ans pour construire. Mais ce roi David, eh bien, son fils construira ce temple, ce qu'on appelle le premier temple. Et dans ce premier temple, il y a cette dédication, cette dédicace du roi, où il est dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, ça c'est le contexte, hein, eh bien, je guérirai son pays, je le pardonnerai. » Et il y a aussi cette prière que ceux qui viennent de loin et ceux qui viennent de près, Dieu va les exaucer sur dans cette maison. Et on voit, eh bien, la joie du Seigneur, parce que ce qu'il va faire, en fait, il va y avoir ce qu'on appelle la kavod, la gloire de Dieu qui pousse les Lévites à terre. Ils peuvent plus adorer. Ils peuvent plus adorer. La gloire de Dieu est tellement puissante qu'ils peuvent plus rien faire. Et le feu va descendre du ciel et brûler tous les sacrifices. Donc, Dieu est content de cette maison. Il est content de cette maison qui est le premier temple, sera détruit ensuite, captivité de Babylone, les Babyloniens vont détruire ça. Il va être reconstruit par Ezra, par Néhémie, etc. Et ce qu'on appelle le deuxième temple, le grand temple de Hérode, sera ce temple qui est construit et terminé là où, quand Jésus va venir. Et les disciples sont émerveillés par ce deuxième temple. C'est la huitième merveille du monde. C'est un temple immense. Quand vous venez à Jérusalem, on va monter sur voir les fondations de ce temple. Et les disciples sont étonnés. Regarde, regarde, regarde. Et qu'est-ce qu'il leur dit le Seigneur ? Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Et il parlait de son corps. Et le Seigneur, en fait, il parlait, eh bien, tu vois cette maison ? Eh bien, c'est simplement une préparation, un signe pour ce qui va se passer vraiment, parce que le temple du Saint-Esprit, eh bien, c'est moi qui vais le construire. C'est moi qui vais le construire par mon corps. Et Yeshua, Jésus, eh bien, quand il marche dans ce temple, il est dit la gloire du deuxième temple sera plus grande que celle de la première. Pourtant, la gloire de Salomon, c'était quelque chose, mais la gloire du second temple, c'était le Seigneur qui est rentré dans ce temple et qui a déclaré, voilà, maintenant il y a une nouvelle chose. Jean chapitre 10, pendant ce qu'on appelle la dédication, la fête de la dédication de la Hanouka, il dit, il parle qu'il est le Seigneur venu donner sa vie pour les péchés du monde. Alors notre Seigneur va être crucifié à la Pâque, nous le savons, à Pessah. Ça, c'était très important. Il devait être crucifié à Pessah parce que selon, eh bien, cette symbolique de Pessah, c'était l'agneau qui ôtait les péchés du monde. Vous savez, Jean le Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Notre Seigneur sera crucifié. Il sera crucifié alors que la parole de Dieu dit que le sacrifice de Pessah doit être sacrifié entre le jour et la nuit, au crépuscule, il est dit. Alors, c'était pas possible puisque il devait être déjà enterré le soir. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Eh bien, il a fait que au milieu de la journée, parce que notre Seigneur a été crucifié entre midi et 3 heures de l'après-midi, il va y avoir des ténèbres. Alors, une chose très très importante, très très intéressante pour nous de savoir, c'est que comment Dieu règle tous les petits petits détails, les moindres détails. La mort d'un blasphémateur, selon la loi judaïque, c'est qu'il est lapidé. Il est lapidé avec des pierres. Alors que voici que Dieu va susciter un peuple étranger, des Européens, des Romains, qui utilise la crucifixion comme méthode de mort. Quelque chose d'étranger complètement à la loi juive. Et pourquoi est-ce que Jésus devait être crucifié sur un arbre ? La parole de Dieu dit « Maudit celui qui est crucifié sur l'arbre. » Maudit celui qui est crucifié sur l'arbre, qui est cloué sur l'arbre. Alors, on sait que Jésus est le second Adam. À travers le premier Adam, le péché est rentré dans le monde. À travers le deuxième Adam, eh bien, le péché sera pardonné et ôté et payé. On sait qu'à travers un arbre, le péché est entré dans le monde. Et on sait que la croix, eh bien, c'est ce deuxième arbre. C'est l'arbre, eh bien, de la restauration. C'est l'arbre du pardon. C'est l'arbre de la rédemption. Et Jésus devait mourir à Jérusalem, en face du mont Moria. Quand vous allez sur Golgotha, quand vous allez voir on est juste en face du mont Moria, en fait. Du mont Moria, on voit ce Golgotha, on voit ce qui est, il y a une église maintenant, une grande église du Saint-Sépulcre où il faut vraiment s'imaginer ce qu'il y avait derrière parce que c'est devenu tellement religieux, c'est devenu tellement oppressant même, je dirais même spirituellement, que juste devant le Golgotha, eh bien, Dieu a pourvu. Il a pourvu le sacrifice de l'agneau de Dieu. On a chanté déjà l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et pourquoi est-ce que le Seigneur doit revenir maintenant ? Eh bien, il doit revenir parce que il doit, comme la parole dit, dans Luc au chapitre 4, où il est dit que quand il lit dans la synagogue et il dit cette lecture, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour amener la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir les cœurs brisés, pour apporter la délivrance aux captifs. Et il s'arrête au milieu de la lecture et il va se rasseoir. Et les gens vont être surpris. Il n'a pas fini, il n'a pas terminé sa lecture de Ésaïe 61. Et ils lui disent, mais... Alors il a dit, ces paroles ont été accomplies sous vos yeux aujourd'hui. Donc il y a des paroles qui ont été accomplies il y a 2000 ans, ce qu'appelle l'année de la grâce. L'année de la grâce a été accomplie. C'est une année qui dure déjà 2000 ans. C'est l'année du pardon. Il a omis cette dernière phrase qui est dans le verset 2, Ésaïe 61, verset 2. Et la chose qu'il n'a pas dit il y a 2000 ans, eh bien, il a dit une année de grâce pour l'Éternel et il n'a pas dit un jour de vengeance pour notre Dieu, pour tous les affligés, pour consoler les affligés. Un Dieu de vengeance pour notre Dieu, pour consoler les affligés. Et moi, ça me parle beaucoup de ça, parce que les choses que les gens demandent dans le monde, c'est quoi ? C'est la justice. C'est la justice. Nous, notre justice, c'est de pardonner, parce que Dieu, c'est lui, notre vengeur. Donc ce n'est pas à nous la vengeance. Nous, on doit pardonner, on doit aimer, mais il va y avoir un jour où le Seigneur va accomplir sa justice sur la terre et c'est son second retour. C'est pour ça que les gens attendent le retour du Seigneur. Et c'est pour ça que nous, notre espérance, c'est leur dire, eh bien, tu cherches la justice, eh bien, le Seigneur va accomplir sa justice. C'est lui qui va consoler ceux qui sont affligés, ceux qui ont été martyrisés, ceux qui ont été persécutés. Vous vous souvenez que tous les martyrs qui sont sous l'autel, qui disent « Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand ?» Le Seigneur dit « Encore un peu, attends. Il y a le grand-père qui doit être sauvé encore. Et puis il y a le frère là qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Le Seigneur, il attend. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des personnes qui doivent recevoir le Seigneur. Il y a des Juifs qui doivent recevoir le Seigneur, il y a des Arabes qui doivent recevoir le Seigneur, il y a des Coréens qui doivent recevoir le Seigneur, et il y a aussi les membres de votre famille qui doivent recevoir le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur, il attend. Il veut apporter sa justice, c'est un Dieu de justice, mais c'est pour nous qu'il attend. Peut-être qu'on a besoin aussi de nous-mêmes de nous repentir, de lui demander pardon, de s'humilier devant lui. Alors vous voyez, il vient d'abord pour apporter l'année de la grâce, du pardon, et ensuite il vient pour apporter sa justice. Et il va venir, où ça ? À Jérusalem. Il va mettre ses pieds à Jérusalem, et son règne va commencer sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est la prière. Alors souvent, nous, on a ce concept philosophique grec. Vous savez, on n'a plus de corps, on est comme dans l'air, on va être dans un ciel, tout ça. Alors que Dieu va réconcilier le ciel et la terre. On va être sur terre avec des corps nouveaux. Il va y avoir la résurrection des morts. Et on va avoir des nouveaux corps qui ne sont pas malades. Des corps qui peuvent traverser des murs, mais qui peuvent manger aussi. Bon, ça c'est toute une histoire, c'est un autre programme. Je vais laisser le soin à notre pasteur de vous raconter. 1 Corinthiens chapitre 15, si vous êtes curieux, regardez. 1 Corinthiens chapitre 15, on aura des nouveaux corps. La résurrection des morts et le jugement final, c'est les bases de la foi. Hébreux chapitre 6, il y a 6 fondements de la foi, et parmi ces fondements de la foi, il y a la résurrection des morts et le jugement final. Donc ça, c'est très important. Alors, pourquoi Jérusalem ? Eh bien, simplement parce que notre Seigneur a commencé. Le but de Dieu, c'est de nous ramener au jardin de Éden. De nous ramener à cette innocence, justement, c'est ce qu'on avait parlé. C'est ce que Robert avait dit, sur revenir à cette innocence. Nous avons été ramenés au jardin Éden. Et Jésus, il est revenu mourir au même endroit où Adam a péché. Le premier Adam, le second Adam. Cette deuxième arbre qui est la croix et qui nous fait revenir au don de la vie éternelle. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. À Jérusalem. C'est pour ça que Satan va essayer de tout faire pour empêcher Jésus de revenir à Jérusalem. Et le signe du retour de Jésus, c'est quand des Juifs à Jérusalem lui mettront, eh bien, viens Seigneur, tu es le bienvenu au milieu de nous. Et c'est pour ça que Satan va empêcher
les Juifs du monde entier de revenir à Sion, de revenir dans leur pays. Ça, c'est les prophéties de Jérémie, de Ézéchiel, et qu'il va empêcher les Juifs de recevoir l'Évangile à travers cet antisémitisme qui est venu souvent de l'Église. Et ici, il y a un signe du retour de Jésus, et bien c'est le salut du peuple d'Israël, où de plus en plus de Juifs maintenant se tournent vers Jésus. Il y a 30 ans, il y avait peut-être 200 Juifs croyant en Jésus. Maintenant, nous sommes plus de 15 000 en Israël. Ce sont les premiers fruits qui amènent, qui nous montrent que Jésus est déjà de Jérusalem, Judée, Samarie, aux extrémités de la terre. J'ai eu l'occasion d'être en Nouvelle-Calédonie, qui est le plus loin, en fait, d'Israël par rapport à... Et j'ai vu énormément de chrétiens. Et maintenant, l'Évangile revient. Il revient maintenant. Il est déjà dans le Moyen-Orient. Des milliers de musulmans se tournent vers Jésus au Moyen-Orient. Des milliers. C'est incroyable, le souffle de Dieu qui sauve les musulmans. En Iran, au Koweït, en Égypte, en Syrie. On travaille avec des réfugiés syriens aussi, à travers la Jordanie. Et c'est fantastique de voir ce que Dieu fait. Même, il utilise les guerres pour pouvoir rapprocher les personnes à sa parole. Alors, priez pour le Moyen-Orient, priez pour que les Arabes se tournent vers le Seigneur. Priez aussi pour que Israël, les Juifs, se tournent vers le Seigneur. Nous avons besoin de Dieu. Il va y avoir une vague de plus en plus grande d'antisémitisme dans toute l'Europe. Et je crois que vous allez devoir vous engager dans la prière, mais aussi à devoir vous lever, élever vos voix pour protéger le peuple d'Israël. Amen. Alors on va prier, on va remercier le Seigneur ensemble. Seigneur, notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier que ton plan est grand, que tu as le même plan du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous savons, Seigneur, que tu reviens bientôt parce que tu l'as promis dans ta parole, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as demandé d'attendre afin de recevoir cette puissance qui vient sur nous pour être tes témoins. Et nous voulons être tes témoins, Seigneur, tes témoins à Wavrin, tes témoins dans le nord de la France, Seigneur. Comme il y a eu des témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie, aux extrémités de la terre, que nous soyons tes témoins vivants, tes témoins qui annoncent ta parole, Seigneur, qui annoncent l'espoir, qui annoncent l'année de la grâce, Seigneur, mais aussi ton retour, Seigneur, parce que tu es un Dieu de justice, et merci que tout a commencé à Jérusalem et se terminera à Jérusalem. Et Seigneur, nous voulons prier pour cette paix de Jérusalem, Seigneur, qu'il n'y a pas de paix sans le prince de paix. Seigneur, révèle-toi à toutes les nations, à tous les peuples, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de nous bénir, et nous bénissons aussi les personnes de notre famille qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que ce soit nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, Seigneur. Il y a des personnes que nous aimons. Et Seigneur, nous te demandons de les sauver, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Tu donnes des visions aux jeunes et tu donnes des rêves aux personnes âgées. Seigneur, tu peux leur parler par différents moyens. Nous te demandons, Seigneur, de te révéler à eux, Seigneur. Et que tu sois glorifié, Seigneur, dans leur vie. Merci, Seigneur, pour faire de nous des ouvriers de paix. Et aussi, Seigneur, retire de nous la crainte de l'homme, afin que nous puissions rentrer dans la crainte de l'Éternel, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que ta parole est vivante. Et Seigneur, nous voulons recevoir maintenant la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu nous l'as promis. Et fais-nous marcher, Seigneur, non pas par la vue, mais par la foi, comme Abraham, qui est le père de notre foi, Seigneur. Merci que toutes les promesses ont été accomplies en Yeshua, en Jésus, et qu'en lui, nous avons la vie et la vie éternelle. Shem Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Merci beaucoup.